l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, Présence Midi, nous sommes très heureux de vous accompagner en direct jusqu'à 13h avec dans un instant Anne-Rose Jankovic, Anne-Rose qui va recevoir un tarbé, Michael Genet, qui a 35 ans. Il a décidé de relever le défi d'atteindre le sommet du Kilimandjaro à la fin du mois d'août avec un équipage de 17 personnes qui va amener à plus de 5000 mètres d'altitude, et parmi ces personnes il y a 3 personnes en situation de handicap. On va en parler longuement dans cette émission avec Michael Genet, puis le témoignage de plusieurs personnes qui partiront donc au Kilimandjaro. Dans cette émission également, eh bien, on va détailler l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Pour cela, je serai en duplex avec Nathalie Chambon, la responsable de la communication pour ce diocèse. Ce sera dans quelques minutes. Mais pour le moment, on débute cette émission avec l'essentiel de l'actualité régionale et avec les titres qui sont présentés par Sacha Boudet-Poupillier, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Nouveau rebondissement pour l'autoroute A69. Le rapporteur public du Conseil d'État recommande le rejet du recours des opposants. La décision finale sera rendue début juillet. À Toulouse, le coût de la future ligne C du métro atteint désormais 3,7 milliards d'euros. Sans remise en cause du calendrier des travaux, la ligne doit être opérationnelle en 2029. À Montauban, parents et enseignants se mobilisent contre la fermeture d'une classe dans les collèges REP, craignant des effectifs trop importants pour la rentrée prochaine. Les chefs d'établissement alertent également sur une hausse des sanctions disciplinaires dans les collèges et lycées de toute la région Occitanie. Les fêtes de Lourdes reviennent du 26 au 29 juin prochain, avec 4 jours de concerts, de sport et de traditions populaires dans la cité. Et puis pour finir dans le Lot, le vin blanc confirme son succès. Les producteurs enregistrent une demande record et des stocks qui s'écoulent chaque année de plus en plus rapidement. Le vin reste à consommer avec modération, bien sûr, comme tout autre alcool.
Merci à Sacha Boudet-Poupillier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour développer ses titres dans le journal complet. La suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic et ses invités, juste après cette pause musicale.
I was the one that you Présence à Toulouse 97.9.
Et aujourd'hui, Anne-Rose Jankovic, vous allez nous parler d'une aventure à la fois humaine et sportive.
Et oui, c'est le genre d'aventure que j'aime et qui a toute sa place sur notre antenne parce que c'est une aventure qui a du sens. Ça s'appelle Ensemble au sommet et c'est l'histoire d'un tarbé, Michael Genet, 35 ans, un homme un chouïa hyperactif peut-être, mais en tout cas un homme passionné de sport et de montagne et surtout passionné par la vie et la vie avec les autres. Michael Genet aime les défis et puis il aime les partager. Alors une fois qu'il a gravi l'Everest, eh bien cet homme-là a eu l'idée un peu dingue de gravir d'autres sommets en embarquant dans ses escapades des personnes en situation de handicap. Et oui, rien que ça. Et puis, puisqu'il avait envie de le faire, eh bien, il l'a fait. On a affaire, vous l'avez bien compris, à quelqu'un qui va au bout de ses projets. C'était l'été dernier, au pic du Midi de Bigorre. 150 personnes avaient suivi ce cortège peu banal, une prouesse humaine, sportive et logistique qui a donné à notre aventurier l'envie de continuer. Michael Genet repart dans quelques jours en direction du Mont Blanc, ils seront deux, mais surtout, il a décidé de relever le défi d'atteindre le sommet du Kilimandjaro à la fin du mois d'août. C'est donc un équipage de 17 personnes qui emmène à plus de 5000 mètres d'altitude trois personnes en situation de handicap, Gilda, Clément et Tom. Gilda et Clément sont mineurs. Alors je suis sûre, Gilles, que vous vous demandez, mais pourquoi Michael Genet fait-il donc ça? Pourquoi ne reste-t-il pas tranquillement dans les montagnes bigourdanes? Eh bien, c'est aussi la question qui me titillait et que je suis allée lui poser à l'occasion d'une conférence de presse qu'il menait il y a quelques jours.
Bah, en fait, Ensemble au sommet, c'est le nom d'un projet qui a débuté donc il y a deux ans maintenant, suite à une aventure incroyable qui m'a été permis de réaliser avec la Concagua et donc l'Everest, qui a permis de mettre en lumière grâce à beaucoup de gens qui ont suivi cette aventure. Et donc le côté inclusif a été le maître mot de cette expédition, puisqu'on a permis à beaucoup de personnes d'accéder au pic du Midi l'année dernière. Et donc Ensemble au sommet 2 aujourd'hui, qui est porté donc par l'association Élan Bigourdan, est un projet plus que jamais va reprendre les valeurs inclusives de la première édition, mais ce coup-ci en emportant des personnes en situation de handicap beaucoup plus haut en altitude.
Alors ces personnes en situation de handicap, elles sont choisies comment? Elles sont déjà sportives, vous les connaissez depuis longtemps, comment elles arrivent dans le giron de Ensemble au sommet?
Eh bien, je dirais que elles sont venues pour le coup, ces trois-là viennent d'horizons différents, puisque certains étaient déjà dans mes connaissances depuis longtemps, d'autres que j'ai rencontrés grâce à Ensemble au sommet première édition, et la petite Gilda, donc que j'ai rencontré un peu croisée sur quelques événements handi, et aujourd'hui qui est pour moi un peu notre rayon de soleil, notre mascotte, comme on pourrait dire aujourd'hui, parce que elle porte à elle toute seule le sourire et la volonté, l'énergie de toute cette équipe qui n'a qu'une envie, c'est d'être au départ dans quelques semaines, donc pour la Tanzanie et pour Tom et moi pour le Mont Blanc la semaine prochaine.
Alors pourquoi vous faites ça, Michael? Parce qu'au fond, on pourrait se dire, le défi, ce sont déjà de grands défis sportifs. Pourquoi se rajouter peut-être des difficultés, en tous les cas ce défi-là, ce pari-là d'emmener des personnes en situation de handicap avec certainement beaucoup de joie, mais aussi tous les risques ou toutes les précautions que ça suppose?
Oui, c'est le mot précaution, c'est un mot qui est difficile et qui est même, je pense, pour beaucoup de gens assez difficile à entendre. Pour moi, simplement, la genèse de cette volonté que j'ai au fond de moi, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, après avoir réalisé par exemple des ascensions comme l'Everest et la Concagua, je me suis dit que le Kilimandjaro, c'était une aventure que je pouvais peut-être permettre d'accéder à des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre part à ce genre d'expédition. J'ai vraiment envie de permettre à des gens qui, dans la vie, ne sont pas souvent mis en lumière par rapport à des accidents de la vie ou des problèmes de naissance. Et moi, je trouve ça magnifique aujourd'hui de pouvoir mettre en lumière cette cause, de dire moi aujourd'hui ma passion, ce qui me motive au quotidien, c'est ce dépassement de soi qu'on retrouve dans les sports d'endurance, mais de leur permettre de vivre ça, parce que c'est pas seulement que du sport, c'est une aventure humaine, c'est un voyage, et ce voyage là comme tous les gens autour de nous aujourd'hui en parlent, mais c'est, vous devez entendre ce mot là souvent, c'est une préparation, c'est un engagement. Quand on se lance dans une telle aventure, on prend avant tout part pendant des mois et des mois une préparation mentale qu'on fait inconsciemment, et c'est ce que je veux permettre à des gens qui n'ont jamais accès à ces choses là finalement. Voilà, une petite sortie pour eux, c'est une aventure. Ben là, ça va être vraiment une vraie aventure, mais au sens propre, même pour un valide.
Voilà. Alors ça, l'aventure, effectivement, elle se joue aussi. Vous n'y allez pas seul, hein, vous n'embarquez pas ces personnes en situation de handicap tout seul. Vous partez vraiment tout un groupe. Donc ça veut dire que tout ce groupe-là, qui part avec vous, ce sont des personnes qui ont fait le pari aussi, d'abord d'arriver au sommet et de prendre le temps dans leur vie de tous les jours de se préparer, de s'entraîner depuis des mois pour être de l'aventure.
C'est ça, j'ai essayé de constituer une équipe autour de moi. Dès le départ, on avait un socle. Bien sûr, je ne serais pas parti tout seul sur cette idée-là. On cite souvent mon nom, mais je veux rétablir une vérité, c'est-à-dire que derrière mon nom, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent, tout comme pour Ensemble au Sommet 1. Je n'ai pas été tout seul. Bien sûr, pour l'Everest et la Concagua, c'était le cas, mais je veux dire, il y a eu toute une logistique qui a été organisée derrière. Ce nouveau projet, nouvelle association, des nouvelles personnes aussi, mais aussi des personnes qui ont participé à Ensemble au Sommet 1. Et donc, ces personnes-là ont fait partie du socle, le point de départ qui me permettait de croire à la réalisation de ce projet. Et semaine après semaine, ça a été des nouveaux défis qui permettent d'assurer, comme vous le dites à juste titre, tout ce qui va être assurer une logistique, de la sécurité, à la fois sur le plan technique, médical. C'est un vrai défi. Je comprends aussi tous les jours pourquoi on n'a pas ce type de projet majeur tous les jours dans notre actualité. Mais c'est aussi ce que je trouve excitant dans un projet comme ça. Moi, j'aime aussi dire qu'être au départ, c'est déjà un sommet. Comme je dis aujourd'hui, je l'ai répété durant cette conférence, c'est vraiment important. Oui, aujourd'hui, être au départ, c'est déjà en soi pour nous le départ de l'aventure, et on verra où c'est que cela nous mène.
Alors, au total, il y a combien de personnes qui sont mobilisées? Alors, celles qui partent, mais celles qui sont autour et qui ne partent pas, mais qui sont indispensables dans les préparatifs et dans le bon déroulement des choses?
Alors là, si on fait un peu de mathématiques, on a 3 personnes en situation de handicap qui partent vraiment, eux, ils sont, le projet leur est dédié. On a 2 enfants en plus, donc 2 mineurs. En tout, on a 4 mineurs. Et donc 2 en situation de handicap. Donc on peut dire qu'eux vont nécessiter un accompagnement et une assistance. À l'inverse, les autres personnes qui sont là, donc dans l'aventure, on est 17, et ces 17 personnes sont là dédiées pour venir accompagner donc ces personnes.
Néanmoins, il faut une logistique autour de ces personnes-là.
Voilà, et donc pour cette logistique-là, on a constitué différents pôles. On a justement un pôle logistique, on a un pôle médical, et on a toute une équipe autour. On a une équipe en France qui nous a beaucoup accompagnés, qui ne sera pas au départ, mais qui nous a aidés pour la partie financière, pour la partie associatif et tout ce qui peut être papier, administratif. Et on a une équipe locale sur place c'est indispensable et obligatoire aujourd'hui de toute façon. On a dû se référer au règlement du parc national du Kilimandjaro, et on a une grande équipe qui nous attend de guides et d'accompagnateurs.
Voilà. C'est quoi le plus difficile quand on prépare un projet comme celui-ci qui paraît quand même un petit peu fou?
Pour moi, honnêtement, c'est des mots qui sont difficiles pour moi à exprimer aujourd'hui, parce que je suis encore en plein cœur, même si je pense que le plus gros est derrière maintenant. Moi, comme je le dis souvent là aujourd'hui, moi, à partir du moment où c'est que tout le monde aura ses fesses dans l'avion à la fin du mois d'août, je serai soulagé et même si c'est déjà plus ou moins acquis, je veux dire, mais c'est déjà pour moi le travail accompli. Pour moi, ça a été difficile parce que c'est la vie personnelle, elle est là. J'ai une vie professionnelle aussi, évidemment, à tenir. Et ça, c'est de l'associatif, c'est du temps que je donne en plus. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre quand on me pose ce genre de questions, c'est que c'est le choix qu'on fait tous dans nos vies ou pas. Il y a des gens qui vont vous répondre, moi, j'ai pas le temps. Mais moi non plus, j'ai pas le temps, mais je le fais.
Pardon, mais vous faites quoi dans la vie?
Alors moi, j'ai
à part mener des projets fous.
Honnêtement, ça pourrait vous paraître difficile à croire, mais je suis chef d'entreprise. En même temps, je suis salarié à temps plein, je suis cadre chez Daher, donc dans l'industrie aéronautique, avec un poste à responsabilité. Et j'ai une vie très chargée aujourd'hui, et je suis également adjoint au maire de Tarbes, donc j'ai beaucoup de casquettes aujourd'hui, et c'est la vie qui m'a mis face à tout ça. L'actualité et les choix que j'ai faits m'ont permis de me lancer sur plein de choses, mais en soi, ça ne remet pas en question les engagements que j'avais pris sur ça. Ça m'a juste permis d'être aujourd'hui focus à 100% pour mener ce projet jusqu'au bout.
Alors maintenant, on va essayer de se mettre vraiment de mettre des images dans la tête de nos auditeurs. Concrètement, comment on fait d'un point de vue très matériel et logistique pour emmener 3 personnes en situation de handicap? Peut-être qu'il faut dire quels sont les handicaps qu'elles portent, mais en haut du Kilimandjaro, ça veut dire quoi? Des joëlettes, du matériel, des fauteuils? Enfin, comment vous faites concrètement?
Alors, concrètement, aujourd'hui, en quelques mots, c'est assez simple. On a 2 athlètes qui sont plutôt autonomes, qui sont hémiplégiques. Hémiplégique, c'est un grand mot dans le domaine du handicap, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tout à fait la validité de tous leurs membres, notamment inférieurs pour Thomas et pour Clément, mais aussi supérieurs. Et on a Gilda qui a un défi un peu plus différent, puisqu'elle a une motricité qui est beaucoup plus complexe et qui nécessite une assistance. Et donc, nous, le premier défi qu'on a voulu répondre, c'est à celui-ci. C'est un défi moteur, c'est essayer de pas lié à ça. Donc Clément et Thomas ont l'avantage de pouvoir, eux, se rendre jusqu'au sommet, je le pense, en tous les cas, avec une belle préparation physique qu'ils ont déjà entamée il y a de nombreux mois. Pour Gilda, c'est plutôt logistique. Comme vous avez parlé de fauteuil, on a choisi de collaborer avec l'IPAMAT, donc un fournisseur de fauteuils adapté pour le tout-terrain, notamment l'Hippocampe Marathon, qui est un célèbre fauteuil pour ce genre d'expédition-là, qu'on a sélectionné non pas par hasard, mais parce que c'était conforme au terrain qui nous attend. Et après, il y a l'autre défi, c'est le défi médical. Et le défi médical, pour le coup, celui-ci, il a été extrêmement restrictif pour nous. Donc on a pris part à des tests hypoxie. On a aussi sur place prévu des bouteilles d'oxygène. C'est un petit peu plus de 5800 mètres d'altitude, le Urupik comme on l'appelle. Et donc forcément, le risque pour moi, il est numéro un, c'est l'hypoxie, parce que c'est un risque invisible. Une cheville qui se foule, on le voit tout de suite, on l'identifie et on redescend si nécessaire. Le test hypoxie, il peut être plus invisible, mais notamment chez les mineurs, qui peut donner un défi complémentaire. Et pour nous, c'est pour ça qu'on a insisté là-dessus. Et on a plusieurs voies, je dirais, de repli, des scénarios qu'on a étudiés tous en cas de problème chez du valide comme de l'invalide, pour pouvoir garantir la sécurité de tous les participants jusqu'au bout.
Est-ce qu'il y a une chose qui vous fait peur dans cette aventure? Parce que vous avez l'air d'être déjà un peu parti, à fond, sûr de vous, sûr de la réussite aussi de ce projet. Est-ce que il y a un point d'inquiétude, de doute ou de vigilance particulier?
Alors, de peur, absolument pas, parce que sinon je ne me serais pas lancé là-dessus. J'ai toujours cru que c'était possible. Ça n'a pas été toujours facile de convaincre les gens autour, il faut être sincère. Je peux comprendre que les gens aient des doutes quand ils entendent parler d'une telle expédition. Il a fallu convaincre des parents. Il faut aussi imaginer que des parents nous confient leur enfant mineur en situation de handicap, c'est assez fou. Donc il faut imaginer la relation de confiance qu'on a pu créer ensemble, et c'est ce que je trouvais beau dans cette aventure. Et moi, je sais que là-dessus, j'aime à croire que l'équipe qu'on a constituée est tous soudée autour de cette idée-là, d'être au départ, encore une fois. Mais après, non, l'envie pour moi, c'est simplement que tout le monde profite à mesure de ce qu'il est venu chercher. Et je sais que l'équipe qu'on a constituée est venue chercher un partage humain avant tout, plus qu'un sommet. Mais on va dans tous les cas voir de beaux paysages, découvrir une autre culture et vivre une expérience formidable.
Alors, je sais que vous êtes très pris, donc je vais bientôt vous libérer, mais j'aurai encore plein d'autres questions. Mais quand même, on va terminer avec l'ancrage local. Vous êtes tarbé, vous êtes entouré de personnes des Hautes-Pyrénées qui aiment les montagnes, qui aiment la Bigorre. C'est un peu votre terrain de jeu, en tous les cas, c'est votre terrain d'entraînement, et c'est aussi votre terrain de partenariat. Ça, c'est peut-être important, ce partenariat avec principalement des partenaires locaux. Ça a du sens aussi, j'imagine. Vous parliez tout à l'heure de valeurs humaines, mais j'imagine que ça a du sens aussi pour vous, d'emmener quelque part un petit peu toutes les Pyrénées et les acteurs locaux là-bas, en haut du Kilimandjaro.
Oui, je vous cache pas qu'aujourd'hui, quand les gens me croisent et me reconnaissent, c'est souvent juste parce que j'ai fait l'Everest. Moi, ça m'a pas changé ma vie particulièrement. Je reste un tarbé qui, comme vous dites, utilise notre terrain de jeu qui est formidable. Mais avant tout, ça a été un crédit qui m'a été donné dans le regard des autres personnes. Aujourd'hui, quand on va démarcher des partenaires et que les gens se disent, déjà, il y a eu quelque chose qui a été réalisé l'année dernière. Après, vendre qu'on emmène des personnes en situation de handicap qui sont issues du territoire, ça a été fort de sens. Et je pense que beaucoup de sociétés ont voulu associer leur image à un projet inclusif. Et je pense qu'ils ont tous compris que le projet, c'était surtout l'aventure humaine et mettre en lumière ces trois personnes-là. C'est pour ça que je suis fier de répondre aujourd'hui à ces interviews-là. Mais j'espère qu'à notre retour, les gens porteront un regard différent et permettront à des personnes comme Gilda, à d'autres personnes comme Gilda, Clément et Tom, de prendre part à ce genre d'aventure dans le futur.
À propos de ces partenaires, on peut quand même aussi signifier que grâce à eux, l'aventure d'un point de vue financier est possible aussi.
Tout à fait, parce que comme je le répète, c'est une aventure qui a été à 100% gratuite pour ces personnes-là. On a même là encore aujourd'hui, on creuse pour essayer de fournir même des petits à côté, les assurances, des équipements, parce qu'il y a toujours des besoins particuliers là-dessus. Et aujourd'hui, on ne s'est pas intéressé aux moyens qu'avaient les parents ou les familles. On a d'entrée dans le projet considéré que c'était un projet offert pour eux. Et donc ça a été, vous imaginez que ça a un coût énorme. Et donc tous les bénévoles ont œuvré pour permettre de faire connaître ça et participer à mes côtés à obtenir des fonds pour avoir la logistique et les billets d'avion et un tas de trucs qui permettront à Gilda, Tom et donc à Clément d'être au départ de cette fabuleuse aventure.
Donc du 21 au 30 août, Kilimandjaro, comment on vous suit depuis la Bigorre?
Alors comment on nous suit depuis la Bigorre? On a bien sûr créé depuis hier les réseaux sociaux, donc des pages sur tous les réseaux sociaux connus qui s'appellent Ensemble au Sommet 2. Mais bien évidemment, par notre partenaire privilégié qui est notre association, c'est le groupe 65 qui est un vrai puits d'informations au quotidien pour les gens qui habitent les Hautes-Pyrénées. Et donc dessus seront mis des informations un peu exclusives avec des échanges, des petites interviews, des petits moments de vie qu'on va partager durant toute la préparation. Et puis je l'espère, si les conditions nous permettent là-bas en termes de Wi-Fi, de pouvoir aussi envoyer des petits moments de vie là-bas durant toute notre évolution sur la Tanzanie.
Vous viendrez nous raconter ça au micro de Radio Présence à la rentrée.
Avec grand plaisir, l'histoire sera belle dans tous les cas.
Comment expliquez-vous que cette histoire-là marche et qu'elle suscite tant d'enthousiasme?
Eh bien, en fait, tous ceux qui connaissent le sanctuaire de Lourdes et la manière dont on y accompagne les personnes malades ont déjà compris, j'en suis sûre. Michael Jeunet et ses équipiers ne cherchent pas la gloire, ils n'ont pas d'ambition personnelle, ils ne sont pas là pour soigner leur ego. Ils sont tout simplement motivés par l'envie de relever et de partager un défi. Et puis, ils ont dans le cœur la conviction que les exploits sportifs, notamment, sont accessibles à tous, y compris aux personnes handicapés. Ils sont tout simplement ce que j'aime appeler des hommes et des femmes de bonne volonté.
Alors Anne-Rose, vous nous parlez de Michael Genet et de son équipe. Alors vous les avez rencontrés à l'occasion donc de cette conférence de presse menée il y a quelques jours. Mais qu'en est-il des personnes en situation de handicap qu'ils amènent? Est-ce que vous avez pu les rencontrer et comment se prépare-t-il à cette aventure?
Vous avez raison, Gilles. Gilda, Clément et Tom étaient présents lors de cette conférence de presse. Et puis, c'est bien normal parce que cette aventure, elle ne se construit pas autour d'eux, mais avec eux. Hein. C'est eux qui donnent tout son sens à cette expédition. Alors, comment se prépare-t-il? Que s'attendent-ils à vivre? J'ai prêté mon micro à Giuseppe Paolucci qui est allé leur poser précisément ces questions.
Bonjour, c'est Giuseppe. Je suis stagiaire pour Radio Présence. Aujourd'hui, je suis avec Gilda. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Bonjour, enchantée. Alors moi, je m'appelle Gilda, j'ai 15 ans et je suis paratriathlète au club de Tarbes.
Donc, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a 2 ans, tu étais en fauteuil roulant. Et tu nous disais aussi que la limite, c'est dans la tête. Donc, toi, dans cette génération où les adolescents, ils préfèrent rester dans leur canapé ou chez eux, toi, comment t'as fait à te remotiver et à dépasser tes limites?
Alors merci pour la question déjà. Donc je vais ramener ça un peu aussi au projet. Donc le projet s'appelle Ensemble au sommet. Donc chacun a son sommet en fait, chacun a un objectif qu'il essaye d'atteindre. Maintenant moi mon objectif c'est des objectifs sportifs que je n'aurais jamais cru atteindre il y a 2 ans. Et il y a 2 ans mon objectif c'était de me relever parce que à cause de toutes les opérations et ma maladie qui n'est vraiment pas connue, donc qui s'appelle piezo 2. On sait vraiment pas comment, enfin on savait pas comment je pouvais m'améliorer et je me suis dit pourquoi pas faire du triathlon. C'est une idée folle mais je me suis dit je vais repousser mes limites et je vais le faire, je vais y arriver. Donc il y a pas longtemps j'ai fait mon premier triathlon et au fur et à mesure d'aller aux entraînements mon corps a pris des muscles et j'ai gagné en endurance et j'ai réussi à passer d'un fauteuil à un déambulateur et à passer d'un objectif qui était de me relever à maintenant gravir le Kilimanjaro. Donc voilà. Merci.
Je suis avec Clément. Clément, est-ce que tu pourrais te présenter?
Bonjour, je m'appelle Clément Talbot. J'ai 15 ans et je fais beaucoup de sport, notamment du tennis de table en compétition en valide et en handisport.
Et le Kilimanjaro, ça se monte pas du jour au lendemain. Donc comment vous allez vous préparer avec tout le groupe d'ici fin août avant la montée?
Avec le groupe, on va faire plusieurs randonnées pour se coordonner. Donc 4 randonnées majeures prévues. La première vraiment pour se caler entre nous, pour bien se coordonner, qui ne sera pas publique. Et la troisième sera publique, qui sera ouverte à tout le monde. Tous ceux qui voudront venir pourront.
Et toi, personnellement, quels sont tes entraînements pendant la semaine, que ce soit pour ton sport, donc qui est le ping-pong, ou même pour la montée maintenant pour le Kilimanjaro?
Pour le ping-pong, j'ai 2 entraînements par semaine, plus des compétitions le week-end. Et pour le Kilimanjaro, je fais du renforcement musculaire et je fais du vélo tous les week-ends et de la course à pied. Merci.
Donc je suis maintenant avec Thomas. Est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Thomas Varven, j'ai 39 ans. 39 ans, voilà, j'ai eu un accident de la circulation en vélo, donc à l'âge de 12 ans en 99. Et je me suis retrouvé hémiplégique, donc complètement paralysé à gauche. Et petit à petit, le sport, la détermination m'ont permis de quitter mon fauteuil roulant et puis petit à petit de repousser mes limites. Et puis très souvent, on m'a mis des barrières en me disant « tu pourras pas faire ». Et clairement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à repousser ces barrières qu'on me mettait justement. Et voilà.
Et maintenant, cette pression pour le Kilimanjaro, il y a une pression mentale et même pour le Mont Blanc avant. Comment tu gères ça avant la montée?
Oui, c'est sûr. Alors, essentiellement, les entraînements ont doublé, voire triplé là depuis 6 mois. Je ne fais pas un jour sans faire du sport, récupération. Mais après, je suis accompagné également à côté. J'ai une coach mentale. J'ai une psychologue aussi pour les moments de down, un petit peu de dur. Et puis Michael qui pilote le projet. On s'écrit, on s'appelle quasiment tous les jours. Enfin, très très souvent en tout cas. Et après, moi, je ne prends pas le départ si je ne suis pas en haut. Hein. Donc l'objectif, c'est d'être en haut avant tout. Et puis de faire ce projet magnifique. Et puis montrer l'exemple à mon petit garçon que rien n'est impossible et que c'est pas parce que j'ai une jambe qui fait un peu ce qu'elle veut que je peux pas y arriver, quoi.
D'accord, merci beaucoup et bonne chance.
Merci à toi.
Alors Anne-Rose, voilà pour ce tour d'horizon des sommets.
Oui, nous avons bien de la chance en Bigorre, nous avons de superbes montagnes, mais nous avons surtout de belles initiatives qui prouvent que les gravirs est accessible à tous, ensemble au sommet. C'est un projet ambitieux mais réalisable parce qu'il est porté par des personnes qui ont les pieds sur terre et qui ne s'interdisent aucun rêve. Alors soutenez-les, suivez-les, c'est absolument édifiant.
Voilà, ensemble au sommet. Merci beaucoup Anne-Rose Jankovic.
Merci Gilles.
Radio Présence à Montauban. 93.3.
Bon appétit à suivre dans les prochaines minutes, direction Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Je serai en duplex avec Nathalie Chambon. Et dans un instant, le journal régional.
Présence.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller ? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présent ce matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneur en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait.
Vous avez reconnu la voix de Michel Delpech à l'instant.
Présence à Montrégeau. 94.1.
En plein cœur de Présence Midi, je vous souhaite un bon appétit. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, à 12h32. Enfin, un point sur l'actualité régionale. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha Boudet-Pouplier, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour.
Bonjour à tous. Le feuilleton judiciaire de l'autoroute A69 connaît un nouveau tournant. Le rapporteur public du Conseil d'État s'est prononcé en faveur du rejet du recours déposé par les opposants du chantier reliant Toulouse à Castres. Si son avis est généralement suivi par les juges, la décision définitive du Conseil d'État est-elle attendue pour le début du mois de juillet? En attendant, les travaux vont se poursuivre avec une mise en service toujours annoncée pour l'automne prochain. Autre dossier majeur toujours à Toulouse, le coût de la facture de la ligne C du métro continue de grimper. Le projet est désormais estimé à 3,7 milliards d'euros, soit plusieurs centaines de millions de plus que les dernières estimations. Cette hausse s'explique notamment par l'augmentation du coût des matériaux, de l'énergie, des adaptations techniques et des contraintes liées au chantier. Malgré cette inflation, le calendrier reste inchangé avec une mise en service toujours prévue pour 2029. L'inquiétude monte également dans le monde de l'éducation à Montauban. Parents d'élèves et enseignants se sont mobilisés devant un collège classé en réseau d'éducation prioritaire pour protester contre la fermeture annoncée d'une classe. Ils dénoncent des effectifs qui pourraient atteindre 27 à 28 élèves par salle dès la rentrée prochaine et craignent une dégradation des conditions d'apprentissage. Toujours dans l'éducation, les représentants des chefs d'établissement alertent sur une hausse des sanctions disciplinaires dans les collèges et lycées d'Occitanie. Ils évoquent une évolution préoccupante du climat scolaire, marqué par une multiplication des incidents et des exclusions, tout en appelant à renforcer la prévention et l'accompagnement des jeunes élèves. Place maintenant à un rendez-vous festif. Les fêtes de Lourdes feront leur retour du 27 au 29 juin prochain. 4 jours de concerts, de compétitions sportives, d'animations populaires, de traditions locales et de spectacles rythmeront la cité. Les organisateurs espèrent attirer plusieurs milliers de visiteurs pour ce rendez-vous incontournable du début de l'été. Et pour finir, dans le Lot, le vin blanc connaît un véritable succès. Les producteurs constatent une demande toujours plus forte, au point que les stocks sont souvent écoulés avant la fin de la saison. Porté par les habitudes de consommation estivale et la qualité des productions locales, ce vin devient l'un des produits les plus recherchés du département. À consommer avec modération.
Effectivement, à consommer avec modération. Merci, Sacha Boudet-Poupillé, voilà, étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. L'info sera de retour dans une demi-heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. Bon été, bon appétit si vous nous écoutez en ce moment à table. Dans les prochaines minutes, eh bien, on ira prendre un peu de fraîcheur avec Anne Lasserre, direction les Pyrénées, avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. On va se balader dans les Pyrénées à travers plusieurs excursions que nous proposera Anne Lasserre. Et dans un instant, avant de partir en altitude, on fera un crochet par Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Et pour cela, je serai en duplex avec la responsable de la communication. C'est Nathalie Chambon que je vais joindre par téléphone. Allez, dans 30 secondes, à tout de suite.
Les podcasts de Radio Présence. Podcast de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Radio Présence à Cahors 92.5.
Bonjour Nathalie Chambon.
Bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Avec vous, comme chaque semaine, on détaille l'agenda béarnais du diocèse et on commence avec le traditionnel feu de la Saint-Jean. Bien, ce feu, ce sera à Lons ce vendredi 19 juin.
Oui, tout à fait. La paroisse anticipe un petit peu la fête de la Saint-Jean qui est le lendemain, mais néanmoins à partir de 18h30, donc à l'église Saint-Jean-Baptiste, il y aura la messe, puis une bénédiction des nouvelles salle paroissiale bénédiction qui sera faite par le vicaire général, l'abbé François Biche. Et ensuite, on se retrouve autour d'un pique-nique partagé, de beaucoup d'animation autour de ce feu de la Saint-Jean, avec la clôture vers 23h. Tout le monde est bienvenu, pas d'inscription nécessaire pour ce feu de la Saint-Jean.
Voilà, il faut juste penser à amener ses couverts.
C'est ça, merci Gilles pour la précision.
Voilà, je rappelle que Lens, ça se trouve donc dans l'agglomération paloise. Allez, on poursuit et on part maintenant à Orthès avec un vide-maison qui est proposé à la maison Sainte-Claire.
Pardon. Oui, à la Maison Sainte-Claire, un vide-grenier, donc ce samedi 20 et dimanche 21 juin, donc avec également des petites ventes de pâtisseries, sandwichs, crêpes, goûter. Donc venez vraiment voir ce que vous pourriez trouver chiner pour vos maisons. Ça, effectivement, les bénéfices vont à la Maison Sainte-Claire et à la paroisse d'Orthès, samedi et dimanche 20 et 21 juin.
On poursuit avec de la musique et un concert des chorales. Ça va se passer ce samedi à Navarinx.
Oui, à l'église Saint-Germain à 20h30. C'est les Voix de la Bastide de Navarinx qui organisent un concert de plusieurs chorales. L'entrée est gratuite avec une libre participation. Donc venez vous réjouir les oreilles samedi 20 juin à 20h30 à Navarinx.
Voilà, plusieurs chorales hein, seront présentes donc pour ce beau concert, hein, pas manquer les concerts des chorales. Allez, on revient de l'agglomération paloise avec la fête de la paroisse de Bières.
Oui, et le dimanche 21 juin, toute la journée, fête ouverte à tous avec un repas, musique, jeu, convivialité à l'église Saint-François-Xavier à Bilières. Hein, ce sont nos traditionnelles fêtes de paroisse de fin d'année. N'hésitez pas à inviter les gens que vous connaissez, qui ne sont pas encore complètement intégrés dans les paroisses. C'est un bon moyen de faire connaissance.
On poursuit avec cette messe d'action de grâce des prêtres jubilaires du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Ce sera à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
Oui, tout à fait. Donc c'est lundi 22 juin à 17h. Notre évêque Monseigneur Marc Haillet présidera cette messe d'action de grâce pour nos prêtres jubilaires qui fêteront leurs 25, 50, 60, voire 70 ans de sacerdoce lors de cette messe, qui également verra l'appel, en fait l'admission de 3 séminaristes au sacerdoce. Hein. C'est une étape dans leur chemin, dans leur discernement, puisque c'est 3 séminaristes, donc Patrice Creuson Marquezois et Rosario Ternini, ont donc été acceptés pour aller vers cette ordination sacerdotale. Les prochaines étapes seront le lectorat, l'acolytat et l'ordination diaconale, mais d'ores et déjà, réjouissons-nous de cette admission au sacerdoce. Donc ne manquez pas cette belle messe le 22 juin à 17h. En la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
Voilà, c'est la première étape hein, vers l'ordination sacerdotale. Donc 3 séminaristes pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Donc lundi 22 juin à 17h à la cathédrale de Bayonne. Et enfin, on termine cet agenda avec cette petite initiation à la philo. Ça va se passer à Pau.
Oui, c'est une petite session de philosophie que propose le père Gabriel, donc chanoine de la Grâce. C'est donc, vous l'avez dit, à la maison Saint-François-Xavier. C'est du mercredi 24 juin au mardi 30 juin midi. Il y a des conférences, des visites culturelles, des apéros. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il y a une petite inscription, un petit document à télécharger, toujours sur le site diocèse64.org. Vous pouvez également contacter directement le père si vous souhaitez plus d'informations sur ce programme. C'est vraiment une petite initiation pour bien démarrer l'été autour d'une sagesse pratique contemplative et pour avoir les idées claires et une tête bien faite.
Ah ben voilà, magnifique, c'est là-dessus qu'on va refermer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Grand merci Nathalie Chambon, je rappelle que vous êtes la responsable de la communication et puis on se dit à très vite pour de nouveau évoquer l'agenda. À bientôt.
À très bientôt Gilles, bonne journée, au revoir.
Présence.
Et après l'agenda de Bayonne-Lescar et Oloron, dans un instant, direction les Pyrénées avec Anne Lasserre et le regard des écrivains sur les Pyrénées. On va aujourd'hui parler de différentes excursions dans les Pyrénées avec Philippe Subercaz et Anne Lasserre dans 4 minutes.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Dans l'air, et pourtant, l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. Peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. Ce temps-là, mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Au Païs, au Toulouse,
après Toulouse de Claude Nogaro, direction les Pyrénées avec Anne Lasserre et Philippe Subercaz.
Présence à Superbagnères 94.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Nous avons une exclusivité ici, c'est la machine à remonter le temps. Voilà, on la bichonne, on veille sur elle, on la rénove, voilà. Car vous dites que vous aimez le 19e siècle, et je finis vraiment par le croire. Hein. Les récits que vous avez choisis, le récit d'ailleurs que vous avez choisi cette semaine, a été publié en 1893.
Oui, un ouvrage qui s'intitule « Carnet de courses dans les Pyrénées » réunit des récits qui racontent des ascensions, des excursions qui ont été faites à la fin du 19e siècle, et c'est effectivement l'un d'entre eux que j'ai retenu, Philippe.
Et ces récits avaient pour but de donner envie aux futurs lecteurs de parcourir les Pyrénées, de faire des adeptes, de recruter de nouveaux camarades d'excursion.
Et voilà, et oui. Et alors on peut lire « Gentes dames et demoiselles, c'est à vous que nous nous adressons, chaussez le brodequin à clous ou la sandale
». Voilà, c'est encore l'époque où beaucoup gravissent les sommets à cheval, voilà.
En cette fin du 19e.
On prend cette machine, on l'a réglée, 19e siècle, 1893. Nous partons donc dans les Pyrénées.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
En 1893, la Société des excursionnistes Tarbé publie 35 récits d'ascension, d'excursion dans les Pyrénées. Ce sont souvent des pyrénéistes d'occasion, profitant d'une journée de repos pour gagner la montagne. Le tout nouveau chemin de fer abolit les distances et l'on peut, l'espace d'une journée, abandonner la tenue de ville pour celle du montagnard. L'un de ces récits s'intitule « Une nuit à la Queba d'Arbi ». L'ascension a lieu en août et le récit commence par un dialogue entre deux personnes. Découvres-tu quelque chose ? Je ne vois absolument rien. Crions un peu. Ouais ! Chut, écoutons. Pas même d'écho. Cependant, récapitulons. Nous étions à 4h30 du soir à Grougne-Pourré, à 6h10 à Boulest. Il est 6h57 exactement. Je suis sûre que nous avons franchi le ruisselet qui se jette dans le Labas. Et nous devrions approcher d'Arbi. Un maudit brouillard. Et la boussole ? Pas facile de s'en servir, mon cher. Voici bien l'ouest, mais sur une distance de 4 ou 5 mètres seulement. Avec les erreurs inévitables, tant de fois réitérées, nous pouvons très rapidement dévier à 90 degrés de notre route. Bah, nous n'avons point franchi le Labas et nous avons monté. Nous sommes bien dans la direction générale ouest. Voyons, aide-moi à vérifier sur la carte car il commence à faire sombre. Du ruisseau versant sud du col d'Uzius jusqu'à Arbi, 500 mètres environ en projection, n'est-ce pas ? 700 mètres au grand maximum en montée raide. Temps nécessaire de 20 à 25 minutes. Je sais bien que dans le linceul de vapeur compact, on peut aisément se fourvoyer et pourtant, et si le berger n'est plus à Arbi ? Ceux de Boulest nous ont affirmé l'avoir vu encore cet après-midi. Il ne s'est pas envolé, lui et son troupeau. Crions une autre fois. Wep ! Un chien, il me semble avoir entendu aboyer par en bas. Oui, certes. Descendons. Je m'explique. Nous allions assurément trop haut sur le versant. Ah ! Je distingue des vaches et des moutons. La Queba n'est pas loin. Gare aux chiens. D'ailleurs, voici le berger. C'est le dialogue que nous échangions au crépuscule d'une soirée d'août à travers un brouillard intense qui nous avait surpris dans le vallon supérieur de la basse. Ce vallon de la basse, resserré entre les pennes blanques du Gabizos au nord et les déchirures du pic d'Aroubert au sud, atteint vers l'ouest le col de Taouseia, limite des Hautes et des Basses-Pyrénées. Il fait communiquer la vallée d'Azin en amont d'Arins, avec la plaine de Soussouéou dans les quartiers d'Ossau. Nous avions compté d'abord coucher à l'usine d'Ar, de l'autre côté du col, visiter le lendemain le lac d'Artoust et revenir soit par Erana et les eaux chaudes, soit par Lurdé et les Aubonnes. Puis, les difficultés de la marche grandissant avec la brume, nous nous étions simplement assignés comme gîte la Queba d'Arbi, la dernière cabane de ce côté-ci du col. Et nous avions failli la dépasser, nous élevant plus qu'il n'aurait fallu sur la montagne de l'Ouesque. Dieu sait combien de temps nous aurions erré sans ces aboiements perçus sous nos pieds. Aussi, vous pouvez comprendre avec quelle effusion de joie nous accueillons le berger qui, contenant son chien, paraît d'abord tout ahuri de notre présence. La Queba d'Arbi est une hutte en schiste brun, superposée à sec et dont la base est un rectangle de 3 mètres sur 2, avec une hauteur un peu moindre que 2 mètres. La Queba a été bâtie sur un petit plateau gazonné et parsemé de gros blocs tombés des monts. Attenant à la Queba vers l'est et clôturée de rochers avec une barrière de rondins, un parc à bestiaux, où vaches et moutons sont couchés, taches roussâtres sur fond sombre, tandis que deux chèvres, agitant leurs sonnettes, vont et viennent, pareilles à des fantômes encornés. Nous entrons en nous courbant, apercevant à droite le foyer qu'un mur de refend peut élever ses parts de la couche, jonché de branchages frais. Pas de cheminée, La fumée s'échappe à travers les interstices de la construction, noircissant le haut de suie luisante. Suspendu sur le feu, un chaudron. Au mur, quelques hardes, un parapluie marron d'étain, un vieux fusil à un coup. Par terre, des ustensiles. C'est là que nous allons passer la nuit. Le repas du berger se composait de tourie, potage rudimentaire d'oignons frits au beurre dans la poêle et bouilli ensuite avec du lard, du sel et des tranches de pain. Et voilà comment une excursion commencée à Reims, dans les Hautes-Pyrénées, se termine dans une cabane de berger, tant le brouillard est intense. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « Carnet de courses dans les Pyrénées », ouvrage publié par les éditions de la Découvrance en 2005.
Voilà, né, le repas des bergers était alors bien frugal et peu varié à l'époque. De l'eau dans laquelle bout un morceau de lard est versé sur du pain ou une soupe au lait.
Et oui, alors on comprend que le berger est tout heureux de partager les provisions des deux excursionnistes, parce qu'eux, ils ont du saucisson, des œufs durs et du fromage.
Ouh là là.
C'était la fête.
Ces bergers gardent un beau troupeau, 142 brebis et agneaux, 15 vaches et 2 chèvres.
Oui. Alors les animaux passent la nuit dans le parc attenant à la cabane, et le berger précise que le chien n'est pas là tellement pour garder le troupeau, mais pour faire fuir la nuit les animaux qui pourraient s'approcher.
Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Eh oui. Pour cette dernière rencontre de la saison, vous nous rappelez habilement que l'on n'est jamais trop prudent en montagne.
Et oui, ce n'est pas parce que c'est l'été que tout danger est écarté. Le brouillard intense peut empêcher de se diriger, comme on le voit dans le récit fait par ces deux excursionnistes.
Voilà, exactement. Le brouillard, voilà, il n'y en a pas aujourd'hui. Merci encore, Anne Lasserre, puisque c'est la dernière chronique de cette saison. Voilà, on est parti en septembre, je me souviens. On dirait que c'était hier. Et puis, voilà, 10 mois se sont passés. Et puis, vous êtes toujours là. Et merci beaucoup. Et je crois qu'on repart pour une autre saison.
Mais avec grand plaisir, Philippe.
À partir de septembre. Et comme on a un petit peu dit il y a quelques semaines, on va la faire un petit peu évoluer, cette chronique. Parce que, pourquoi pas inviter des auteurs qui sont encore là, des auteurs qui, dont vous lisez des extraits.
Exactement.
Ça serait intéressant d'entendre pourquoi ils ont cette passion sur les Pyrénées, pourquoi ils ont écrit. Oui. Et puis voilà, et puis c'est ça aussi la littérature.
Et oui, la littérature est vivante de nos jours, la littérature pyrénéenne.
Pyrénéenne, voilà. Et on ne se lasse jamais de parler de notre beau pays. Oui. Merci Anne.
Présence.
Laudetur Jesus Christus.
Chaque jour, à 8h30, 13h et 18h, Radio Présence vous propose un tour complet de l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican.
À Prague, pour Radio Vatican, Guillaume Nord.
Bernard, Delphine Arbelier.
Pierre Benazet, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Moscou, Jean-Didier Revoin.
New York, Loïc Louré, Radio Vatican.
Sur Radio Présence, 3 rendez-vous avec Radio Vatican à 8h30, 13h et 18h.
Devenir un soir à vos genoux.
Présence à Belmont-sur-Ance, 93.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Apprendre à connaître l'Orient chrétien, c'est ce que souhaite Léon XIV. Le pape recevait ce midi les membres de